Ces magazines touristiques sont réalisés en collaboration avec nos partenaires. Tout d'abord, la grotte de Choranche, le bateau à roues et la grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans, ainsi que le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Plusieurs musées également. Le musée départemental de la résistance du Vercors, le mémorial de la résistance en Vercors et le musée de la préhistoire du Vercors à Vassieux-en-Vercors. Nous remercions aussi le Grand Séchoir à Vinay, le musée de l'eau de Pont-en-Royan et la maison-musée des Amis de la mémoire du Royan à Rochechinard. Du côté des festivals, le festival des Chapelles Royan-Vercors ainsi que le festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye. Et enfin les offices de tourisme Vercordrome, avec leurs trois antennes à Saint-Jean-en-Royans, Saint-Nazaire-en-Royans et La Chapelle-en-Vercors, l'Arsolite à Saint-Jean-en-Royans et Indians Valley à Beauregard-Barré.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mac Tour de Radio Royan-Vercors. Comme chaque jour, du lundi au vendredi, cet été, Radio Royan-Vercors chamboule ses programmes et vous propose un magazine touristique avec des idées de sortie, l'agenda du territoire, des chroniques immersives dans des lieux partenaires à découvrir, ainsi que des interviews et des reportages. Vous les retrouverez sur nos ondes à 9h en direct et puis à midi et à 18h en rediffusion. Et aujourd'hui, donc mercredi 17 juillet, nous avons installé notre studio mobile au musée de la préhistoire à Vassieux. C'est Charlène au micro aujourd'hui avec Jean-Claude à la technique. Et puis il y a à mes côtés également Léa qui est stagiaire à la radio. Et nous allons passer cette heure ensemble pour découvrir ou redécouvrir ce musée et ses actualités. Et pour en apprendre plus, je suis en compagnie de Didier Lalande qui est chargé de développement et de mise en tourisme des musées du Parc naturel régional du Vercors. Bonjour Didier.
Bonjour à vous.
Et de Loïc Mathieu, qui est médiateur culturel au musée de la préhistoire. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Et merci beaucoup à vous deux de nous accueillir dans ce très beau lieu. Et juste avant de nous plonger dans les actualités estivales du musée, voici un aperçu du programme de ce Mac Tour. Nous commencerons avec un point sur les activités et l'agenda qui vous sont proposés aujourd'hui dans le Royan-Vercors. Puis nous poursuivrons avec vous deux, Didier et Loïc, sur les actualités estivales du musée de la préhistoire. Et puis enfin, nous retrouverons ensuite une première chronique touristique. Et cette fois, c'est direction le musée de l'eau à Pont-en-Royan, qui accueille une nouvelle exposition temporaire pour cet été. Et puis nous continuerons avec l'agenda de ce soir et de demain sur le territoire. Et enfin, on terminera avec une dernière chronique touristique. Et cette fois, nous irons du côté de l'Arsolite, le centre d'art de Saint-Jean-en-Royans, qui accueille également trois expositions pour cet été. Et on commence tout de suite avec les propositions à faire aujourd'hui dans le Royan et le Vercors. Du côté de l'Arsolite, il y a un atelier cet après-midi, un atelier d'initiation au cyanotype. C'est un atelier avec une médiatrice qui vous initiera à la technique du cyanotype, qui est une technique d'impression photographique, et c'est dans le cadre de l'exposition « L'art de la sieste » de Fleur B. Un atelier accessible à partir de 5 ans, au tarif unique de 10 euros par enfant, matériel inclus dans le prix de l'atelier. C'est un atelier qui aura lieu à 14h30 et qui dure jusqu'à 16h. Et c'est aussi l'occasion de profiter de parler de l'Arsolite pour rappeler qu'il y a l'exposition One Two Street Art qui est à voir également, une exposition qui revient sur l'histoire du street art en France dans la même thématique. Il y a également aujourd'hui le début du festival Rue Rart, Graff en Vallée, avec une dizaine de street artistes qui réaliseront des œuvres sur les murs de Saint-Nazaire en Royan. Vous pourrez découvrir ce parcours d'œuvres qui constituera petit à petit un itinéraire à travers les rues du village et dans le parc du château. Puis changement de décor au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye avec un voyage botanique au jardin médiéval. Une visite guidée gratuite en compagnie de Chloé Flamand qui est ingénieure horticole pour découvrir cet écrin de verdure et voyager à travers les légendes des plantes qui ont soigné de l'Antiquité à nos jours. Une visite qui dure 1h15 et qui est accessible aux petits à partir de 6 ans. Et c'est à 16h30. Ça aura lieu chaque mercredi de cet été. Et puis, côté musée, il ne faut pas hésiter également à franchir ses portes puisqu'il y a une exposition des pièces maîtresses de la collection des costumes historiques. Et puis, toujours du côté de Saint-Antoine-l'Abbaye, il y a une visite guidée du village Ça aura lieu de 10h30 à 12h. C'est Saint-Antoine sans dessus-dessous, avec une série de jeux pour découvrir le village médiéval de Saint-Antoine, son architecture, ses points de vue et ses sons. Ici, il faut compter 11€ par adulte, 8€ en tarif réduit, et c'est gratuit bien sûr pour les enfants. Et pour cela, il est préférable de réserver via l'office de tourisme de Saint-Marcellin-Vercors-Isère, communauté. Et puis on part direction les hauts plateaux du Vercors cette fois-ci, avec l'équipe de la réserve naturelle des hauts plateaux qui vous propose une rencontre aujourd'hui sur la faune, la flore et l'activité pastorale ainsi que la réglementation spécifique qui contribue évidemment à la préservation de la biodiversité de cet espace protégé. C'est un rendez-vous qui aura lieu à la cabane dite des étudiants. C'est la cabane du département de l'Isère qui se trouve au niveau de la source des Gerlans, donc sur la réserve des hauts plateaux du Vercors. Donc une équipe d'éco-gardes sera présente de 9h à 16h et vous pouvez passer au gré de vos envies. Évidemment, c'est une rencontre gratuite et sans réservation. Et puis toujours sur le plateau du côté du mémorial à Vassieux, du mémorial de la Résistance, c'est une balade commentée qui est organisée comme chaque mercredi sur les pas des maquisards. Ça aura lieu de 10h45 à 12h, donc c'est chaque mercredi et chaque jeudi. Et donc accompagné par un guide, vous parcourrez les bois jusqu'au camp numéro 6 sur les traces de la vie quotidienne des maquisards du Vercors. Et puis c'est l'occasion également de rappeler l'exposition en cours au mémorial, l'exposition Arpenteur du souvenir de Ethel Buisson et de Claude Philippot. Pour cette balade commentée, il faut compter 5€ pour les adultes et c'est à partir de 8 ans. C'est gratuit pour les enfants. Et également à préciser que ce tarif vous donne également l'accès d'entrée au mémorial. On continue donc du côté de Vassieux, au musée de la Préhistoire où nous nous trouvons actuellement. Cette architecture donc qui est un chalet en bois, c'est une architecture contemporaine qui est cachée dans les sous-bois. Et un musée qui dévoile les secrets d'un matériau essentiel aux femmes et aux hommes de la préhistoire, le silex. Et on en reviendra juste après. Donc je vais commencer par vous poser quelques questions à vous, Didier. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ce musée se trouve ici, au milieu de la forêt, à Vassieux ? Ah, non, c'est Loïc qui va nous en parler.
Alors, le musée de la préhistoire est un musée de site. Les murs du musée ont été construits autour d'un atelier de taille de grandes lames de silex qui remonte à cette dernière période de la préhistoire qu'on appelle le néolithique final. Ici, il y a 4500 ans, des femmes et des hommes, artisans tailleurs spécialisés dans la taille de grandes lames de silex, venaient 2 ou 3 semaines à la belle saison, produisaient, taillaient des grandes et des petites lames et puis redescendaient en plaine pour les échanger, certainement à des chefs de place, pour qu'elles soient diffusées. C'était des produits d'exception.
Et donc il y avait vraiment cette ressource géologique, donc ce silex qui se trouvait en grand nombre ici. C'était pas un lieu de vie, c'était vraiment un lieu de production, quoi.
Oui, ici au sud du plateau de Vassieux, il y a un gîte de silex de 18 km2. Trois grandes catégories de silex, certaines ont été privilégiées par ces tailleurs spécialisés. Mais par contre, sur le site archéologique, nous n'avons que l'atelier de taille de silex, mais pas de traces d'habitat. C'était des habitats saisonniers, mais on n'a aucune trace de ces habitats-là, à l'exception de 2 ou 3 petits charbons de bois.
Et donc, ce musée a été construit juste à côté pour parler de cette histoire de la préhistoire, qui est singulière, j'imagine, dans le Vercors. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette présence humaine ? Est-ce que c'était une présence qui a été fixe dans le temps, ou est-ce que... Voilà, il y a eu des allers-retours dans l'histoire.
Non, on n'a pas de traces, en tous les cas sur les plateaux du Vercors, de villages préhistoriques. Ici, deux humanités se sont succédées, les Néandertaliens et les Sapiens, chacun étant nomade, mais tous n'ayant pas les mêmes objectifs. Hein, certains venaient chasser et tailler un peu pour les Néandertaliens. Des absences de présence humaine du moment que le climat se refroidissait avec les maximums glaciaires où on n'a plus de traces d'humanité ici. Et puis après les Néandertaliens, ce sont les Sapiens qui vont regagner la montagne. Et là encore, au gré des climats, ils vont parcourir la montagne sur des camps de chasse. Et puis pour les périodes qu'on appelle paléolithiques, paléolithique récent, et puis au mésolithique également. Donc à la fin des glaciations, des groupes humains vont également monter des piémonts jusque sur les hauts plateaux du Vercors. Et on retrouve aussi également les traces des populations néolithiques, fin de la préhistoire, et notamment pour Vassieux, avec la présence de ces tailleurs spécialisés et colporteurs.
Et donc on comprend bien que le silex a un rôle très important donc, pour ces groupes d'habitants qui venaient ici pour tailler la pierre et s'en servir d'outils. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut retrouver l'histoire dans le musée ?
Oui, le musée n'est pas uniquement le musée de la préhistoire à Vassieux, c'est le musée de la préhistoire du Vercors. Ici, ce sont les informations archéologiques de l'ensemble du massif que l'on peut retrouver à ces deux périodes, donc du paléolithique moyen avec Néandertal jusqu'au néolithique final avec les Homo sapiens. Mais les piémonts et le massif plateau du Vercors, montagne, sont évoqués dans les vitrines, dans l'exposition permanente du musée.
Et pour les visiteurs et visiteuses, comment se déroule une visite quand on arrive dans le musée ? Combien de temps ça prend à peu près ? Quel type d'interaction ? Qu'est-ce qu'on peut voir comme type de choses dans le musée ?
Une visite libre ou une visite guidée peuvent être proposées. Les visites libres, les gens vont aller découvrir l'exposition permanente et durant chaque visite, alors l'été c'est à 11h30, 14h30 et 16h30, les médiateurs du musée proposent des démonstrations de taille de silex. C'est une particularité vraiment du musée de la préhistoire du Vercors, puisque chaque visiteur va pouvoir assister à la taille de quelques objets préhistoriques, mais également c'est un moment d'interaction où les visiteurs vont pouvoir dialoguer avec un médiateur et pas se retrouver uniquement devant des vitrines.
Et je crois que c'est vous justement qui êtes un peu la personne référente du silex pour le musée. Comment est-ce que vous avez acquis ce savoir, cette pratique de la taille du silex ?
En plaisantant, je dis souvent en me coupant les doigts. Et puis, en fait, ouais, j'ai une grande appétence pour la taille. Et puis, j'ai cette chance d'être accueilli au sein de groupes de scientifiques, préhistoriens, archéologues, lithiciens, expérimentateurs. Et du coup, j'ai un accompagnement régulier dans l'année pour pouvoir progresser, puisque la taille du silex c'est un apprentissage relativement long, et puis surtout qu'au XXIe siècle on essaye d'aborder des temps très longs sur des technologies qui ont évolué au cours de la préhistoire, et donc tailler à l'image des Néandertaliens n'est pas la même approche de la taille que taillée comme des Homo sapiens du néolithique, par exemple.
Et donc c'est vraiment, il y a une approche à la fois scientifique et artisanale de cette pratique, quoi.
Au musée, on a une approche quand même scientifique. On ne fait pas que de l'artisanat. On est ici dans un musée de France, et donc on essaye de réapprendre la façon de travailler des humanités préhistoriques en utilisant les mêmes techniques, donc c'est-à-dire les mêmes types d'outils pour tailler et les mêmes méthodes, c'est-à-dire en essayant de comprendre les intentions des tailleurs préhistoriques, même si on pourra jamais se mettre dans leur tête, mais on essaye de comprendre leurs intentions pour obtenir un résultat. L'idée pour nous ici, c'est quand même que les visiteurs comprennent que puisqu'on parle ici des humanités sans écriture, que ces gens qui ne savaient pas écrire ne sont pas que des gros sauvages et des bas du front.
Et alors justement, quel type d'objets est-ce qu'ils pouvaient fabriquer ? Est-ce qu'il y avait uniquement des objets pour la chasse ? Est-ce que c'était des objets aussi pour cuisiner ? Je ne sais pas, quel type de choses on pouvait...
La gamme est très très variée en fait. Hein. On a des outils pour trancher, pour racler, pour percer, et ça dès les périodes néandertaliennes. Puisque je m'arrête ici pour la préhistoire, on a des périodes beaucoup plus anciennes qui ne sont pas traitées en Vercors du fait de l'absence d'humanité, liées, comme toujours, au climat un peu froid à ces moments-là. Mais les gammes d'outils peuvent être très, très impressionnantes. Ici, ce sont des grandes et des petites lames de silex qui ont été taillées au néolithique final, mais les archéologues et donc les équipes du docteur Malenfant ont mis au jour plus de 27 catégories d'outils domestiques également sur le site de taille.
Et donc justement, ce docteur Malenfant, c'est lui qui a eu l'idée de créer le musée, c'est ça ?
Oui, alors c'est l'inventeur du site. Il avait obtenu des informations de la part de géologues et puis en 1970, il a mis au jour les nucléus. Les nucléus, ce sont les déchets de taille en fait des grandes lames de silex qui étaient à fleur hein, ici, puisqu'il y a une telle quantité de silex que depuis le départ des préhistoriques, la forêt n'avait pas repoussé dessus. Et donc il a mis au jour ce site archéologique, unique en Europe dans son état de conservation. Et donc c'était en 1970 et dès 1980, la première version du musée a été construite et les murs sont construits autour de l'atelier de taille. Quand vous venez à Bassieux, ce n'est pas une reconstitution de l'atelier que vous voyez, c'est l'atelier de taille du néolithique final. Pas dans le même état d'abandon que les préhistoriques, puisque 14 tonnes de silex ont été prélevées pour études et on les retrouve actuellement en grande partie dans les locaux de la conservation de la Drôme.
Donc vraiment une rareté qu'on peut trouver au bout de Bassieux, tout au bout du chemin, au milieu de la forêt. Et au sein des collections du musée, donc quand on vient faire la visite, j'imagine on peut faire cet atelier de découverte de taille. Quel type de documents aussi on peut retrouver pour donner un petit peu un avant-goût aux visiteurs, visiteuses qui seraient curieux ?
Alors, il y a donc effectivement toutes ces traces qu'on appelle anthropiques, les tailles de silex. On a également quelques moulages de matériel lié à la faune de ces périodes. Plus on s'avance dans le temps, plus on arrive vers néolithique, on retrouve également d'autres types de roches telles que l'obsidienne, le quartz qui ont pu être taillés et qui voyageaient à ces périodes-là. Et puis quelques céramiques également, des éléments de parure. Il y a quand même une bonne matière pour bien essayer de comprendre la façon de vivre de ces humanités-là. Et puis l'idée, c'est d'essayer aussi de comprendre leur déplacement entre les plaines et les territoires de montagne.
Et est-ce que le paysage a évolué ? Est-ce que la faune a évolué entre ces deux temps ? Enfin, cette évolution de l'ère temporelle ?
Il y a dû avoir des évolutions, oui. Maintenant, autour du musée actuellement, on doit quand même, la période climatique actuelle a débuté il y a à peu près 10 000 ans, on est dans la même période qu'on appelle une interglaciaire, une période un peu douce actuellement que celle qu'ont connue les mésolithiques. Donc effectivement, les mésolithiques étant les groupes humains qui ont abordé le plateau après la fin des glaciations, il y a eu des grands changements à ces moments-là, mais a priori, on doit pas...
Ils pouvaient voir les mêmes arbres, ils pouvaient voir les...
Au niveau de la faune, on doit être sensiblement pareil, et le paysage, non, puisque maintenant le territoire de Bassieux est un territoire agricole, et donc une grande partie du milieu forestier qu'ont dû connaître ces groupes humains a été maintenant... abordé par l'homme, et une grande partie du paysage qu'on voit ici est empreint de la main de l'homme. Hein.
C'est ça, on s'est sédentarisé entre-temps.
Voilà, tout à fait.
Et super, est-ce qu'on peut passer peut-être aux expositions ? Donc, je crois qu'il y a deux expositions également à voir sur les actualités archéologiques qui se passent à Cré en ce moment également.
Oui, tout à fait.
Avec
donc,
vous, Didier.
Bonjour. On a donc le musée propose plusieurs prestations, dont ces expositions temporaires. Donc, il y en a une qui est à l'extérieur et qu'on va garder encore une année, qui s'appelle Biodiversité vitale et fragile. Et puis une seconde qui est, comme vous le disiez, sur l'actualité archéologique de Cré. Donc, sur deux sites qui sont en train d'être fouillés au centre de Cré et qui sont donc dans la salle du bac de taille à l'intérieur du musée.
Et justement, qu'est-ce qui se passe ? Ça crée quel type de... Quelles sont les différences entre les découvertes archéologiques qui ont pu se passer sur le Vercors et à Cré ?
En 2018, à Cré, dans le cadre de fouilles archéologiques préventives, les archéologues de l'INRAP, donc c'est l'Institut National de la Recherche d'Archéologie Préventive, ont mis au jour deux différents sites, l'un remontant au paléolithique qu'on appelle récent, d'une culture qu'on ne retrouve pas d'ailleurs sur le plateau du Vercors, puisque c'était à des périodes relativement froide, et puis quelques traces également d'habitat de cette dernière période de la préhistoire, qui est le néolithique. Voilà ce qui a été mis au jour à Cray, et donc l'INRAP nous a prêté pour cette année quelques panneaux relatant ces découvertes avec le matériel archéologique qui a été mis au jour à ce moment-là.
Donc une exposition à découvrir en parallèle de l'exposition permanente qui a lieu au musée de la Préhistoire. Je crois que vous proposez aussi des ateliers pour les enfants, parce que c'est important de dire que s'il peut y avoir un aspect scientifique, historique, assez précis, assez technique, il y a aussi tout un tas d'interactions assez ludiques pour les enfants, pour les publics familiaux.
Alors tout à fait, c'est vrai qu'il y a une des vocations qu'on veut maintenir et qu'on veut développer en relation étroite avec le comité scientifique du musée de la Préhistoire, c'est de garder vraiment de l'humain et de l'expérimentation, de travailler sur le geste, montrer aux gens, pouvoir expérimenter, faire des choses avec ses mains et pas être simplement sur des outils de médiation très numériques comme on peut le retrouver à beaucoup d'endroits. Et donc on a bien sûr ces ateliers, mais on a aussi d'autres moyens d'accueillir les gens, et notamment les plus petits, avec, pour le parcours de visite qui des fois peut être un petit peu abrupt pour les plus jeunes, un livret-jeu dans le musée qui est adapté à leur âge. Donc on a quatre niveaux de lecture pour ce jeune public. On a aussi bien sûr à l'extérieur un jeu de piste, retour vers la préhistoire, qui dure à peu près une heure, qui est gratuit avec une entrée au musée et que peuvent faire les gens en famille, et qui raconte une histoire, retour vers la préhistoire, et c'est un jeu de piste qui est tout à fait ludique et qui est très apprécié de la part des familles. Pour revenir aux ateliers, donc on a deux jours pendant l'été qui sont consacrés aux ateliers pour les individuels, donc le mardi et le vendredi, où on a trois ateliers par jour, un le matin et deux l'après-midi. Et pour cet été, donc ces ateliers se concentrent sur comment faire naître le feu. Loïc, rappelle-moi les trois autres. On a Petit Meunier, donc comment faire de la farine, et puis on peut aussi consommer sa galette à la fin de l'atelier. Mais on a aussi un atelier chasse, donc où on initie les participants au tir à la sagaie au propulseur, et puis un atelier parure et un atelier fouille archéologique. Voilà, ça ce sont les ateliers qu'on a mis en place cet été. En complément, le reste de l'année, on a d'autres ateliers, parce qu'on a une dizaine d'ateliers qui sont prêts à être mis en place pour tous les publics. Pour cet été, ce sera cela. Donc, bien penser à réserver, parce que bien sûr, ces ateliers ont un nombre limité. Il y a un animateur qui encadre ces ateliers, et avoir plus que 20 personnes sur un atelier, au bout d'un moment, on perd un petit peu le sens de la chose. Mais ces ateliers donc sont sur réservation. On passe un petit coup de téléphone au musée, et comme ça, on réserve sur, si possible, la semaine d'avant, parce que souvent, certains peuvent être complets. Voilà. Donc ça, c'est pour les ateliers. En termes de prestations, sinon on a bien sûr ce qu'a déjà évoqué Loïc, c'est-à-dire la visite libre, mais il y a aussi les visites guidées qui sont aussi sur réservation, donc bien penser à réserver. Et puis par contre, pour tout ce qui est les réservations pour les groupes, c'est vrai qu'on en a un petit peu moins, parce qu'on a beaucoup plus d'individuels pendant le mois de juillet et d'août. Par contre, tout le reste de l'année, on accueille des groupes, bien sûr sur réservation, que ce soit des scolaires ou que ce soit des gens en centre de vacances ou que ce soit tout type de groupe. Voilà.
Et donc ces ateliers dans lesquels on peut se mettre soit dans la peau d'un humain préhistorique, soit dans la peau d'un archéologue, c'est ça, dans les ateliers pour les enfants.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Rapidement découvrir les pratiques et les usages. C'est des ateliers qui sont accessibles à partir de quel âge ?
Alors certains sont accessibles à partir de 4 ans, d'autres à partir de 7 ans. Mais il faut aussi dire que les adultes sont bien sûr les bienvenus, et que souvent on a notamment pour faire naître le feu, enfin, un grand enthousiasme de personnes de tous âges, parce que c'est vraiment hyper sympa d'apprendre à faire du feu, quoi. Enfin, il y a une symbolique qui est extrêmement forte là-dessus, quoi.
Oui, l'aspect ludique peut plaire aux grands et aux petits.
Ah, tout à fait.
Donc on peut bien sûr venir faire l'atelier en famille.
Évidemment. En plus de ces ateliers, il y a donc les ateliers hors les murs. Donc, par contre, qu'on organise aux périodes où on a moins de personnes, d'individuels au musée, et notamment donc l'automne et l'hiver. Et pour parler de ces ateliers hors les murs, je repasse la parole à Loïc, parce que c'est lui qui les encadre, il est bien le mieux placé pour en parler.
Donc, durant ces périodes, en fait, le musée peut se déplacer dans les écoles de la Drôme et de l'Isère, se déplace également dans des centres de loisirs, et puis nous proposons des ateliers directement dans les locaux de ces structures qui peuvent être empêchés de venir sur le Vercors. Parce que le prix des transports est important, parce qu'il y a de la neige en hiver. Donc là, c'est le musée qui se déplace. Et puis, les ateliers durent 2 heures. On prend un groupe par demi-journée. Et à chaque fois, il y aura une thématique de l'atelier, mais également une introduction sur la préhistoire en général, avec là encore des expositions de crânes, de reproductions d'objets. Et puis, après une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est l'atelier proprement dit qui débutera. Donc ça peut être l'atelier faire naître le feu, l'atelier parure, l'atelier musique. Au fur et à mesure, le catalogue là aussi des ateliers hors les murs s'étoffe. Mais c'est vraiment possible de contacter le musée et que le musée se déplace assez longue distance puisque je me déplace jusqu'à quasiment 150 km de Vassieux-en-Vercors.
Ouais, donc il y a vraiment une intention et une volonté de vouloir transmettre à la fois dans une visée pédagogique peut-être pour les plus jeunes pour découvrir d'une autre manière l'histoire en touchant, en fabriquant, et en discutant surtout avec vous qui êtes, et je ne sais pas si on peut vous appeler expert, mais en tout cas très renseigné sur la préhistoire.
C'est un peu mon métier d'essayer de faire toucher du doigt quelques aspects de la vie de ces humanités préhistoriques, même si on ne pourra jamais se remettre à leur place, effectivement. Mais c'est vraiment notre l'ADN d'un musée d'essayer de transmettre. Non seulement c'est de conserver le matériel archéologique, mais c'est également de transmettre au plus grand nombre des informations sur la période qui nous intéresse, nous ici, qui est la préhistoire.
Dans le Vercors, en particulier. Si les auditeurs et auditrices sont passionnés de préhistoire, est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le Vercors où on peut aller se balader peut-être et trouver des traces d'habitation, d'occupation dans certaines grottes ou ailleurs dans le Vercors?
Alors le parc naturel régional du Vercors a mis en place ce qui s'appelle les archéorandos. Il y a sur le site Vercors Rando, trois à quatre itinéraires qui couvrent un petit peu une partie du territoire, puisqu'il y a un itinéraire dans les Coulmes, on en retrouve un du côté des quatre montagnes, un au départ de Vassieux, où il y a un petit topo qui est proposé aux gens, et puis des balades plus ou moins longues pour randonneurs plus ou moins avertis.
Je voulais compléter en fait par notre programmation culturelle, parce que cette année on a une grande nouveauté dont on est quand même très content. Donc on espère beaucoup de cet événement qu'on met en place pour la première fois. Et donc les 7 et 8 août, donc c'est en semaine, un mercredi et un jeudi, donc 7 et 8 août prochain, pour la première fois, on organise un événement qui s'appelle Silex et compagnie, qui est en fait la fête de la préhistoire. Ce sera donc bien sûr au musée de la préhistoire, et ce sera avec beaucoup de partenaires, dont le musée archéologique de Valence, pour organiser des grands jeux autour de l'archéologie, de l'alimentation et de la préhistoire. On aura toujours bien sûr notre jeu de piste retour vers la préhistoire. On va organiser aussi une chasse aux bifaces, qui ressemble à une chasse aux œufs, mais avec des bifaces, et puis des démonstrations de taille de silex, de teinture naturelle, de vannerie, et puis des ateliers chasse, parure et vannerie encore une fois, avec un conteur aussi qui viendra, Thierry Abba, qui viendra nous raconter des histoires sur la préhistoire, et des rencontres avec les gardes de la réserve des Hauts-Plateaux. Donc pendant ces deux jours-là, toutes ces animations sont accessibles avec une simple entrée au musée. Et donc, venez nombreux. C'est deux jours qui sont vraiment sympas, où en famille, on peut bénéficier aussi des extérieurs qui sont absolument superbes en ce moment, avec une forêt de hêtres superbe à l'extérieur, avec des tables de pique-nique. Enfin, on peut y passer la journée vraiment d'une manière extrêmement sympathique. Et puis, un deuxième événement qui aura lieu donc le 21 et le 22 septembre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, où cette année, il y aura une petite spécificité, qui c'est qu'on accueillera à cette occasion le grand pique-nique du parc naturel régional, qui a pour objectif de valoriser les produits locaux par une programmation de rencontres, d'animations, de dégustations et un marché de producteurs. Donc voilà, on essaye de mêler en fait ces deux événements pour profiter de notre communication commune. Et donc c'est pareil, vous êtes les bienvenus le 21 et 22 septembre pour les Journées européennes du patrimoine.
Et donc patrimoine historique et patrimoine culinaire visiblement avec ces producteurs qui viendront. Ça sera à l'extérieur, j'imagine ?
Ce sera bien sûr à l'extérieur. On espère le beau temps, c'est toujours pareil. Après, on fera comme on pourra. Non, mais de toute façon, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. En plus de ça, on accueillera aussi la remise des prix des prairies fleuries, donc où en fait sont récompensés les agriculteurs qui ont des prairies les plus fleuries. Voilà, ça complétera la programmation de ces journées européennes du patrimoine.
Et donc pour revenir aussi sur les 7 et 8 août prochains, donc pour cet événement Silex et compagnie, la fête de la préhistoire, vous disiez qu'on peut passer vraiment toute la journée à l'extérieur, sous les arbres, et c'est important de signaler, donc il y a des endroits ombragés, on est au frais, quand il fait chaud en bas dans le Royan, il fait meilleur à Vassieux.
Alors c'est clair que l'été, quand il fait beau, l'emplacement du musée de la préhistoire, c'est un vrai bonheur. Voilà, on est vraiment dans un endroit qui est superbe, sous les arbres, au frais, c'est vraiment une alternative à la touffeur qu'on peut retrouver dans le Divois ou dans le Royan.
Et est-ce que vous pourriez rappeler donc les horaires d'ouverture et les jours peut-être aussi d'ouverture pour cet été ?
Bien sûr. Donc cet été, le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h. Et le reste de l'année, donc du 30 mars au 30 juin, et du 1er septembre au 3 novembre, on est ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 17h. Et puis le musée est fermé du 4 novembre au 6 avril 2025, sauf pour les groupes, comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui peuvent être accueillis toute l'année. Voilà, donc pour cet été, juillet et août, tous les jours de 10h à 18h.
Et si les auditeurs, auditrices aimeraient contacter le musée, parce qu'il y a un petit site internet, par exemple, ou un numéro de téléphone qu'on peut communiquer ?
Alors, c'est pas un petit site internet, c'est un site internet extrêmement complet, où vous pouvez retrouver absolument tous les détails de ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Vous tapez simplement Musée de la Préhistoire en Vercors, ça sort tout de suite, il n'y a aucun problème. Donc on rappelle que pour les ateliers, il faut bien passer un petit coup de téléphone. Donc c'est le 04 75 48 27 81. Mais il faut aussi ne pas hésiter à envoyer un mail, parce que des fois on n'arrive pas toujours à répondre au téléphone. Et le mail, c'est info au singulier, @préhistoire-du-milieu-vercors.fr.
Eh ben super, merci beaucoup à vous deux, donc Didier et Loïc, pour la présentation des actualités estivales du musée de la préhistoire du Vercors à Vassieux.
Merci à vous.
Merci à vous et bon été.
Bon été.
Ces magazines touristiques sont réalisés en collaboration avec nos partenaires. Tout d'abord la grotte de Choranche, le bateau à roues et la grotte de Thaïs à Saint-Nazaire en Royan, ainsi que le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Plusieurs musées également, le musée départemental de la résistance du Vercors, le mémorial de la résistance en Vercors et le musée de la préhistoire du Vercors à Vassieux en Vercors. Nous remercions également le Grand Séchoir à Vinay, le Musée de l'eau de Pont-en-Royan et la Maison-Musée des Amis de la Mémoire du Royan à Rochechinard. Du côté des festivals, le Festival des Chapelles Royan-Vercors et le Festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye. Et enfin, merci aux offices de tourisme Vercors-Drôme, avec leurs 3 antennes à Saint-Jean-en-Royan, Saint-Nazaire-en-Royan et la Chapelle-en-Vercors. Merci à l'Arsolite à Saint-Jean-en-Royan, ainsi qu'à Indians Valley à Beauregard-Barré.
Et on continue avec l'agenda de ce soir et des prochains jours à venir dans le Royan Vercors. Pour ce soir, il y a une soirée qui est prévue à l'hostel Quartier Libre qui se trouve au col de la Machine à Saint-Jean-en-Royan. C'est une soirée avec un concert qui est un concert de The Little Brown Bear, qui est un groupe qui propose de la musique irlandaise. Un petit voyage en Irlande depuis le Royan. C'est un concert mousseux et aérien à partager avec tout le monde. Donc ça aura lieu ce soir de 18h à 19h30 et c'est à prix libre à l'hostel Quartier Libre au col de la Machine. Et on continue avec un autre concert, cette fois-ci à Vassieux-en-Vercors, un concert de Franz Velier à 20h30. C'est un concert tout public. Ici, la participation demandée est de 10 € par personne et 8 € en tarif réduit. Franz Velier, c'est un poète-chanteur qui choisit ses notes et ses mots avec délicatesse pour offrir un concert-poème dont il présente chaque rebondissement avec un léger sourire. Et puis du comté de Saint-Jean en Royan, on redescend donc du plateau du Vercors. Sur la place de la Fraternité, il y a un concert là aussi dans le cadre des Mercredis sur place. C'est un concert de musique classique avec Dvorak, qui est un quatuor américain qui est présenté en collaboration avec la compagnie des Yeux Fertiles. Ça aura lieu cette fois-ci à 21h et ce jusqu'à 23h et c'est gratuit. Et on continue donc avec une chronique touristique, petite pause musicale dans cet agenda. On part du côté du Musée de l'Eau avec Jean-Christophe Berru, son directeur, qui nous présente les actualités estivales. Et donc, troisième épisode de cette chronique, on écoute.
Donc on va aborder des sujets hautement sensibles avec de l'humour pour faire passer des messages, donc une mission d'information mais aussi de sensibilisation du public. Et donc on va faire un petit tour d'horizon là-dessus. Il y a des choses autour des déchets plastiques, de la sécheresse, des dérèglements climatiques, de la disparition des glaciers, des choses qui favorisent l'éco-anxiété d'ailleurs de beaucoup de personnes. Mais avec le dessin de presse, une manière d'aborder ça de manière plus, humoristique. En tout cas, qui font passer les messages de manière plus sensible. Et du coup, comment vous avez travaillé cette expo et comment ça va être présent ici au Musée de l'Eau alors ?
Alors, on avait une grosse production, hein, puisque je dois préciser quand même que je remercie énormément tous ces artistes. Nous sommes des passeurs au Musée de l'Eau. Hein, Yves Pillet avait conçu cet endroit pour que ça soit un vivier de rencontres, de connaissances. Je citerai aussi Bruno Witt qui l'a très bien entretenu pendant plus de presque 20 ans. Donc on est une caisse de résonance. On est un point de passage. En plus, on est à Pont-en-Royan, une ville historique liée à l'eau. On est encerné de barrages. On est au bord de Bourne. Il y a un historique très fort, un ancrage très fort sur le Musée de l'Eau. Nous sommes des passeurs. Et pour l'instant, on a eu les droits complets d'utiliser pour les mettre en avant. Donc on a disséminé tout au long de la salle d'expo temporaire, mais aussi sur le parvis. Vous l'avez vu sur les vitrophanies. À l'entrée, on a un dessin de Tinius, le regretté dessinateur qui est mort le stylo à la main en 2015 chez Charlie Hebdo. Donc sa veuve Chloé nous a donné tous les droits pour qu'on puisse passer. Donc il y a vraiment une mobilisation. D'ailleurs, c'est le thème un petit peu de cette exposition, mobilisation générale. J'avais pas prévu les élections, hein, vraiment, mais c'est ce qui va être diffusé un petit peu partout. Et je crois que oui, il est temps qu'on se pose les vraies questions là-dessus. Donc on a fait des grands tirages de badges, on a fait des petits tirages un peu ludiques, on va se prendre en photo avec des dessins de lindingue un peu trash, quelquefois plus légers. Il y a de la poésie, il y a des choses un peu plus violentes. On a Tinius qui est sur la bulle du musée d'entrée. Hein, donc je crois que c'est un dessin, au début elle est bonne, il se baigne en bas de la centrale nucléaire de La Hague. Voilà, il y a des petits points d'humour. Le tourisme aussi, le manque de neige dans le Vercors qui est abordé. Et on a classé ça par classe. Donc le tourisme, les pollueurs d'eau, enfin les sources qui sont contaminées, l'utilisation des pesticides, le dérèglement climatique. On a fait des thèmes. Mais l'avantage de ces dessins, c'est que généralement, il n'y a pas besoin de paroles pour l'expliquer. Donc on les met en scène. C'est un parcours un peu libre. Il y en a de partout. Voilà, il y en a même sur notre carte de restaurant. Hein. Voilà, on décline vraiment. Et bon là, on met en valeur. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça va nous permettre de bâtir une offre scolaire qui était tombée un peu en désuétude. Donc, à partir de la rentrée, avec Pierre, mais des amis journalistes, on va faire une conférence de presse avec les jeunes. Pas des conférences de presse, des réunions de rédaction avec un petit cours de dessin et puis pour former des futurs reporters. On n'est pas chez Tintin, mais voilà. Thank you.
Donc le musée de l'eau met à l'honneur ses dessins de presse avec effectivement un tour de force, c'est-à-dire en une image, avec un slogan de très bien choisi, très bien formulé, que en une image on ait le slogan, l'idée force autour de ces sujets sensibles. Et par exemple, on avait vu ces deux mains qui essorent la planète. Alors c'est pas très radiophonique de décrire des images de cartoon,
oui,
mais
c'est une des affiches de voilà, on a deux mains qui essorent la planète, tout est dit. C'est un dessin de Jacques qui fait partie de JAK, qui fait partie de l'association qu'on a pris pour faire l'affiche de sa cartoon. Donc Pierre a fait une illustration originale qui s'appelle Cartoon sur le pont. Le dessin de l'eau, c'est bien plus beau. Mais voilà, on a cette planète essorée. Pas besoin de parler une langue particulière, une histoire sans parole. Et voilà, et qui montre le degré d'urgence de changer nos modes de consommation, nos habitudes, notre vigilance.
Voilà, on vient d'écouter Jean-Christophe Bérus qui était au micro de Céline pour les actualités du Musée de l'eau, avec notamment plusieurs expositions en cours pour cet été. Et n'hésitez pas à retrouver ce reportage sur notre site internet en réécoute radioroyant.fr. On passe à l'agenda de demain, jeudi 18 juillet, avec plusieurs marchés le jeudi dans le Royan-Vercors. Le matin, il y a les marchés de Saint-Hilaire du Rosier, de Saint-Jean en Royan et de La Chapelle en Vercors. Et puis en fin de journée, à Saint-Lathier, il y a le marché à la ferme de la Clé des Sables qui est de 17h à 19h. C'est un marché donc qui se trouve au hameau des Sablières, dans une ambiance conviviale où vous pourrez retrouver les produits de la ferme. Donc il y aura des pains, des légumes, des noix, des conserves, des sorbets qui sont fabriqués maison, donc des tisanes, des œufs et encore bien d'autres surprises. À noter qu'il y a également une restauration et une buvette sur place. Et puis on part du côté du plateau avec également des activités prévues pour demain. Deux ateliers pour fabriquer des cosmétiques naturels, ça se passe à l'atelier Hortus Vernaison à Saint-Agnan en Vercors. Il y a premièrement un atelier baume du randonneur aux plantes locales. Donc pour fabriquer son propre baume, il y a également la visite du jardin et le repérage des plantes qui seront utilisées pour fabriquer ce baume. C'est à 16h et ça dure 1h30. Ça sera suivi d'un deuxième atelier pour fabriquer cette fois-ci son savon surgras et biodégradable aux senteurs naturelles. Là aussi, c'est à partir de produits issus de l'agriculture biologique. Ce sera de 17h45 à 19h15. À noter que ces deux ateliers sont accessibles à partir de 15 ans et qu'ils se dérouleront au 3865 route de la Vernaison. Donc pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de hortus-vernaison.fr. Demain, toujours du côté de Saint-Jean-en-Royan, au camping des bords de Lyon, il y a un conte pour les enfants à 15h et c'est en partenariat avec la médiathèque de Saint-Jean-en-Royan. On part du côté du plateau cette fois-ci à la salle des fêtes de Vassieux, puisque demain soir, il y aura une projection cinéma à 20h30. C'est le film Le Franc-Tireur, un film interdit pendant plus de 30 ans qui sera projeté. Et ce, à quelques jours de la commémoration des 80 ans des événements qui ont ravagé le Vercors. C'est l'association Vent du Vercors qui vous propose ce film et qui sera suivi d'une discussion avec Gilles Vernion, qui est historien spécialiste de la Résistance et qui vous apportera son éclairage sur cette période et qui répondra à vos questions. Puisque ce film, donc, qui a fait scandale à sa sortie en 1972, parlait d'un sujet qui était tabou à l'époque. Il était de notoriété publique que De Gaulle avait abandonné le maquis du Vercors, mais il ne fallait absolument pas en parler. Et pourtant, le thème du film, c'était l'engagement. Voilà, donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre à la salle des fêtes de Vassieux. Donc c'est une salle des fêtes qui est accessible aux personnes à mobilité réduite et le tarif pour la projection et la discussion donc avec l'historien est de 6€ pour les adultes, 4€ pour les enfants et 5€ pour les adhérents de l'association Vent du Vercors. Et puis, autre projection cinéma, cette fois-ci à Saint-Jean-en-Royans, à 21h30 en extérieur, une projection du film de Hayao Miyazaki, Le Château dans le Ciel. Un classique, si vous ne l'avez pas encore vu, donc ce film d'animation qui est sorti en 1986 sera projeté donc au centre d'art L'Arsolite. Le tarif d'entrée est à 3€ et pour l'occasion, on écoute un mini-reportage. C'est une archive INA qui a été débusquée par notre stagiaire Léa. On écoute.
Cinéma, vous avez peut-être vu les très beaux dessins animés Le Voyage de Chihiro et la princesse Mononoke du réalisateur japonais Miyazaki. Son premier film était inédit en France. 15 ans après, il sort sur les écrans. Enfin, Richard Tripot.
En fait, moi je m'appelle Chita.
Ah oui, Chita, c'est joli comme nom.
Mais alors comment tu as fait? Comment est-ce que tu es tombée du ciel?
Une petite fille prénommée Chita, descendue du ciel, un petit garçon orphelin qui travaille dans la mine. La rencontre de ces deux enfants, c'est celle de deux mondes, ceux du ciel et de la terre, avec un secret apporté par Chita. Tout là-haut, derrière les nuages, il y a un château, une forteresse convoitée par des puissances maléfiques.
Il est dans ma famille depuis des générations.
Dans cet univers fantastique, cher au réalisateur japonais, Chita et Puzo vont s'envoler vers les étoiles, vaincre les forces du mal et bien sûr, retrouver le château perdu. Réalisé dans les studios de Tokyo, les histoires et les dessins de Miyazaki sont inspirés par des auteurs européens comme Dickens, Swift ou Jules Verne, mais aussi par ses propres voyages.
Au cours d'un voyage ou d'une promenade, il y a des choses qui me frappent et je me dis, tiens, je les utiliserai bien la prochaine fois. Du coup, dans mon prochain film, il y aura des paysages de Patagonie et du Kazakhstan.
L'univers de Miyazaki est tel qu'un véritable musée lui est désormais consacré à Mitaka, près de Tokyo. Un endroit où les enfants peuvent retrouver les personnages de Chihiro, Mononoke, Totoro et autres robots, comme celui-ci, issu de son dernier film.
Quand j'étais jeune, je voulais être philosophe parce que j'étais préoccupé par tous les problèmes du monde. Mais en voyant ma tête, je me suis dit que j'avais plutôt l'air réjoui. Alors j'ai abandonné la philosophie.
Cet amour de la philosophie, Miyazaki l'a mis au service de la beauté de ses films. Avec un scénario d'une grande richesse, l'alternance d'action et de repos, d'humour et de gravité, ce château dans le ciel nous fait rêver et réfléchir.
Voilà, vous venez d'écouter un petit reportage sur le film d'animation Le Château dans le Ciel d'Hayao Miyazaki qui sera projeté à l'Arsolite demain soir à 21h30. Et puis on continue cet agenda avec demain, vendredi 19 juillet, à partir de 10h30, et ce jusque 23h, il y a l'événement à tout bout de champ, un événement proposé par le Chemin des Saisons et le Parc Naturel Régional du Vercors. Le Chemin des Saisons, c'est le nom de cette ferme qui est située à Autran et qui fait de la production et de la transformation de plantes alpines. La ferme a été créée en 2019 sur le site de la Jolie Colo, qui est un tiers-lieu très dynamique. Et puis ensuite, Céline et Caroline se sont associées pour en faire un GAEC dès l'année dernière. Au programme de cette visite organisée par le PNR, donc de 10h30 à 19h, des visites guidées du jardin, une exposition sur les pollinisateurs, une balade comptée, ainsi que des ateliers créatifs, de la cuisine sauvage et bien sûr des dégustations. À noter qu'à 15h, il y aura un spectacle de hip-hop clown. Reste pas planté là, c'est la compagnie L'Aplomb du Dahu. Ça sera donc en extérieur. Et puis de 16h à 19h, il y aura le marché des arômes et des talents. À noter qu'il y aura de la restauration et des crêpes à vendre sur place. Et enfin, à 19h30, il y aura la projection du documentaire La théorie du boxeur, qui est un documentaire qui est sorti en 2024 de Nathanaël Coast, qui sera suivi d'un échange avec Stéphane Choplanaz, qui est maraîcher et protagoniste du film. L'entrée est gratuite, mais la réservation est obligatoire. Donc pour le film, en envoyant un SMS au 06 74 41 43 42. Et par contre, pour toute la journée donc, qui aura lieu sur la ferme, c'est gratuit. et toutes les informations sont retrouvées sur le site du Parc naturel régional du Vercors. Toujours vendredi 19 juillet, il y a un concert à la Grange Ouverte à Saint-Martin-en-Vercors. C'est la compagnie Les Hauts Talons d'Achille qui sera en représentation avec la savoureuse irrévérence des chants paysans. Si vous pensiez que les chants folkloriques et paysans étaient ragards, eh bien Théo et Carole vous proposent un répertoire étonnant et détonnant avec ces chants variés qui sont issus de collectes du 19e et début du 20e siècle auprès des paysans et des paysannes de Bourgogne et de Haute-Loire. Ces chants seront donc interprétés au oud et au caron et ils vous raconteront la vie des femmes de manière poétique et ironique, ponctuée de créativité sur la tradition orale et populaire. C'est donc vendredi 19 juillet de 20h30 à 21h45 à la Grange Ouverte à Saint-Martin-en-Vercors et le tarif plein est à 10 euros. On passe à une deuxième chronique touristique et cette fois-ci, c'est la chronique touristique de l'Arsolite. On retrouve le troisième épisode donc, de cette chronique dédiée au centre d'art. On écoute.
Eh bien, bonjour Fleur B.
Bonjour.
On se situe dans votre écrin artistique, si je puis dire, d'un point de vue exposition, puisque dans la Maison du Canal à l'Arsolite, eh bien, se dévoile votre proposition printanière, qui sera également estivale, l'art de la sieste. Voilà une idée originale. L'art de la sieste, on pourrait même peut-être rajouter, ou l'art de se laisser emporter par les événements. En effet, une exposition qui fait part de moments d'absence. Tout ceci bien mis sur tableau avec différents graphiques qui habitent donc cette salle d'exposition. Comment on peut avoir cette idée de s'intéresser à des gens qui piquent du nez finalement ?
Alors, pourquoi ce sujet ? Parce que j'ai beaucoup voyagé dans mon travail ces 10 dernières années. J'ai été beaucoup en contact avec des gens qui dormaient dans les transports. C'est né de ça. Donc, des petits croquis pris sur le vif de personnes avec qui je voyageais professionnellement ou personnellement. Aussi un petit peu de voyeurisme peut-être, du fait de regarder ces gens qui dorment, qui ne savent pas que je suis en train de les observer, quand ils dorment profondément, sinon ils s'en rendent compte. D'ailleurs, on fait la différence entre les deux grâce à ça. Quelqu'un qui juste a fermé les yeux pour se recueillir à l'intérieur de lui ou qui dort profondément, avec la bouche qui s'ouvre, cet abandon du corps. Et là, c'est possible de les dessiner, c'est possible de saisir cet instant où leur enveloppe corporelle est sur place et leur esprit ailleurs.
Effectivement, il y a de multiples facettes de personnalité.
Oui, je trouve que c'est un sujet qui me travaille depuis longtemps parce que j'aime bien se lâcher prise au moment du sommeil, j'aime bien cet abandon, tout en respectant beaucoup cette bulle dans laquelle se sont mises ces personnes. C'est vrai que d'ailleurs, l'être humain a beaucoup de respect pour les gens qui dorment dans les transports en commun. On réveille pas son voisin, ni dans le métro, ni dans le TGV. On le laisse dormir dans un square. Voire, on dit aux enfants, faites un peu moins de bruit. Regardez, il ou elle est en train de dormir.
Alors justement, c'est pris sur le vif de plusieurs situations que vous avez donc traduites en peinture. Alors c'est une peinture un peu particulière avec laquelle vous avez travaillé.
Oui, en fait, je peins pas avec des pinceaux, je travaille mes peintures avec un marqueur à acrylique qui est de marque Posca, avec un autre aussi de temps en temps en complément qui est Molotov, qui sont des marqueurs qui sont surtout utilisés en street art. Et je le fais sur du support bois, donc pas sur une toile tendue, mais sur un support solide.
Et qu'est-ce qui fait la différence avec une peinture traditionnelle ?
Alors là, il y a très peu, on peut très peu mélanger les couleurs, on est vraiment sur des aplats. C'est très couvrant comme matière, donc une fois que j'ai mis un vert, si je mets une autre couleur, elle va couvrir complètement, à part des couleurs claires qui peuvent garder un petit peu de transparence. Sinon, on est plus proche de l'illustration, du travail au feutre avec un marqueur qu'avec un travail de peinture où il va y avoir des mélanges et des glissements de matière. Là, il y a vraiment des zones délimitées graphiquement et un parti pris comme ça, très illustration.
Avec des phénomènes par rapport à la lumière, peut-être qui changent des peintures, peut-être acryliques, où on a l'impression qu'il n'y a pas tant de reflets que ça, finalement.
Tout à fait, c'est vraiment une matière mate. Alors, on ne connaît pas la recette exacte de la peinture dans les marqueurs Posca, ils le gardent secret, apparemment acrylique, mais probablement avec un mélange d'autres matières assez proche de la gouache, ce qui donne ce côté mat.
Voilà, c'était la chronique touristique de l'Art Solide, centre d'art situé à Saint-Jean-en-Royans. Et c'est la fin de ce Mac Tour que l'on a réalisé depuis le musée de la préhistoire à Vassieux. Merci donc à Loïc et Didier pour leur accueil, ainsi qu'à Jean-Claude pour la technique, et Léa, notre stagiaire cette semaine. Et puis merci à toutes et tous de nous avoir suivis. À noter que ces reportages ainsi que tous ces magazines touristiques sont à retrouver en ligne sur notre site internet radioroyan.fr. Et puis sur les ondes, on vous donne rendez-vous chaque jour en direct à 9h et puis à midi et à 18h pour les rediffs, pour découvrir les idées sorties, les chroniques immersives dans des lieux à découvrir ainsi que des interviews. Belle journée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Royan Vercors. À demain.
Ces magazines touristiques sont réalisés en collaboration avec nos partenaires. Tout d'abord la grotte de Choranche, le bateau à roues et la grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans, ainsi que le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Plusieurs musées également, le musée départemental de la résistance du Vercors, le mémorial de la résistance en Vercors et le musée de la préhistoire du Vercors à Vassieux-en-Vercors. Nous remercions aussi le Grand Séchoir à Vinay, le musée de l'eau de Pont-en-Royans et la maison-musée des Amis de la mémoire du Royan à Rochechinard. Du côté des festivals, le festival des Chapelles Royan-Vercors ainsi que le festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye. Et enfin les offices de tourisme Vercors-Drôme avec leurs trois antennes à Saint-Jean-en-Royan, Saint-Nazaire-en-Royan et la Chapelle-en-Vercors, l'Art Solide à Saint-Jean-en-Royan et Indians Valley à Beauregard-Barrès.